Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeuré prosterné disait: Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant: Rembourse ta dette. Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait: Prends patience envers moi et je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit: Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu.
Qu'il me soit d'abord donné de participer à cette immense action de grâce qui est sûrement la vôtre. Je me tourne vers les communautés des moines et des moniales, les fraternités. Je me tourne aussi vers vous, tous ces amis laïcs qui entouraient ces fraternités. Et puis, je parle au nom du diocèse. Je n'ai pas eu la chance de vous accueillir il y a 25 ans. Je l'aurais fait avec bonheur, mais je sais, pour avoir retrouvé ces homélies et avoir interrogé ma mémoire que nous appelons Madame Michèle Cardozo, pour ceux qui la connaissent, que Mgr Brandt a eu une joie extrême, extrême bonheur à vous recevoir. Il y a peut-être parmi vous des frères ou des sœurs qui en étaient. Voilà. J'ai vu sur la photo, en effet, peut-être d'autres. Voilà. Et pour avoir aussi lu les homélies de mes prédécesseurs, je peux vous dire que ça a été un bonheur pendant 25 ans. Et donc c'est une action de grâce pour Dieu, pour le don qui a été fait à l'Église, bien sûr, mais au diocèse de Strasbourg depuis 25 ans par votre présence ici, et quand je dis une présence, bien sûr, par tout ce que vous représentez de densité d'amour et de prière et de mission au cœur de Strasbourg, au cœur de l'Alsace. Donc, je tiens à vous le dire, et 25 ans, comme je vais vous le dire, ce n'est que le début d'une longue histoire en Alsace, et j'espère être l'évêque qui pourra vous aider et nous aider à ce que cette présence soit toujours plus vive, plus intense, plus fidèle à son origine, donc plus nouvelle aussi. Je tiens aussi à bénir les frères et les sœurs qui s'engagent encore aujourd'hui, notre frère Roberto, voilà, je ne sais pas s'il comprend le français, peut-être pas si, ah si, mais vous comprenez le français. Je sais bien que le français était une langue universelle, elle l'est un peu moins aujourd'hui, donc voilà. Vraiment, merci, c'est important. Je consacre, vous le savez peut-être, beaucoup de temps à nos deux séminaires, puisque nous avons deux séminaires à Strasbourg, diocésains, n'est-ce pas ? Le grand séminaire et le séminaire Redemptoris Mater, qui sont deux séminaires diocésains, parce que c'est l'avenir de notre Église, mais c'est aussi important donc que la vie consacrée et que la vie sacerdotale soit toujours présente dans une Église locale, un diocèse pour parler dans notre jargon. Mais je sais que c'est aussi important pour le présent, car nous pourrions être guettés par le découragement, un tout petit peu de désespoir, quand nous voyons qu'il n'y a plus personne derrière. Suis-je clair ? N'est-ce pas ? Voilà. Et je le sais parce que je suis moi-même religieux, aujourd'hui bien sûr dans un statut particulier, mais je sais combien c'est dynamisant de se dire « je ne suis pas la dernière génération ». Voilà. Et ça c'est pour le présent déjà. Donc merci à vous tous et à vous toutes d'être ici. Alors, je voudrais vous parler de deux choses. C'est pas très bon, hein. Normalement, il y a trois points, mais j'ai pas trouvé le troisième. Premièrement, c'est un nouvel âge pour vos instituts, pour votre institut religieux. En anglais, ça se dit le New Age, nouvel âge. C'est évidemment à une vision historique et temporelle que je nous invite aujourd'hui. Voir les choses dans une dynamique de croissance, de maturation dans le Seigneur. Les âges de la vie ont été oubliés. Il nous faudra les retrouver. En décembre 1997, le frère Antoine Emmanuel, qui je crois a été celui qui a fondé ici, hein, sauf erreur de ma part, écrivait dans votre revue « Fonder, mais ne pas s'installer ». Je souris un petit peu en regardant les sœurs, c'est bien, vous êtes encore dans cette dynamique où vous n'êtes pas tout à fait installé. Donc, très bien, très bien. Vous avez quand même dépassé le matelas initial qui vous avait été donné il y a 25 ans. Fonder, mais ne pas s'installer. Fonder, s'enraciner dans cette terre. On a pris tout à l'heure l'image, Jean-Christophe, de l'arbre, hein, et des racines. S'enraciner, mais en gardant un cœur de pèlerin, disponible aux appels toujours surprenants de l'esprit. C'est un vrai paradoxe, c'est le paradoxe de l'Évangile, n'est-ce pas ? Parce que des arbres mobiles, il n'y en a pas tant que cela, n'est-ce pas ? Il faut à la fois s'enraciner sans perdre notre mobilité, parce que le vent de l'esprit nous pousse vers des avenirs, vers des croissances que nous ignorions il y a 25 ans. Alors c'est très, c'est, la formule est excellente, voilà, fonder, s'enraciner en gardant un cœur de pèlerin. Un quart de siècle de fondation en Alsace nous rapporte donc à cette interrogation, sommes-nous enracinés ? Si j'ai ma réponse aussi à donner, mais c'est la vôtre qui m'intéresse, hein, et en même temps disponible à l'incroyable nouveauté de l'Esprit-Saint. Nous savons tous combien l'installation peut conduire aux habitudes, voilà, et peu à peu à la solidification, à la fossilisation, voilà, par l'habitude. En 25 ans, le monde, l'Alsace, votre congrégation ont connu des déplacements prodigieux au plan religieux, social, humain, technique, technologique. Je n'arrête pas de répéter à des prêtres qui parfois restent sur leur début de leur pastorat, je dis il y a plus de différence entre l'an 2000 et 2020 qu'entre l'an 2000 et 1960 en Alsace. Dans d'autres régions, ce serait un peu différent. Voilà, il y a plus de différence. Donc, le prêtre qui a 15-20 ans d'expérience est obligé de ne plus chercher dans sa première expérience pastorale les lignes que lui souffle aujourd'hui l'esprit. À 25 ans, alors, je vous invite donc à relire votre histoire commune, ou notre histoire commune de ces 25 ans en Alsace, non pas pour une remise en question, je le redis, tout va bien, longue vie en Alsace, j'espère. Non pas pour une remise en question, mais pour aller de l'avant, pour aller sans cesse au large, comme nous y a invité Jean-Paul II. Fidèle à la continuité de la vie, mais fidèle aussi à la sève nouvelle. Comparons cette fondation à la vie humaine. Dans la vie humaine, à 25 ans, c'est pas grave, si vous ne l'avez pas encore, vous allez voir ce que vous allez voir. À 25 ans, l'enfance a disparu avec ses éclats de rire, avec la pureté de la source qui ignore encore les complexités et la présence de l'ivraie, pour reprendre la parabole de Jésus, du bon grain et de l'ivraie. L'enthousiasme de l'enfance ne se construit pas. Il jaillit comme un torrent, naturellement. Mais arrivent les leçons de la vie, les apprentissages du monde quand la famille s'agrandit à l'école, puis à la société et peut-être à l'univers. Dans une vue surnaturelle, je regarde les choses du point de vue de Dieu, le Père émonde sa vigne pour qu'elle porte plus de fruits. Les innocences ou les inconsciences de l'enfance disparaissent. Voilà pourquoi, pour un certain nombre de personnes, l'enfance reste le modèle. Les incohérences de l'adolescence s'estompent. Arrivent les grandes prophéties de la jeunesse. Car 25 ans, c'est le temps de la jeunesse. Celui donc des grands choix. L'âge où l'on cesse de subir ou de suivre pour orienter son devenir, souvent pour toujours. La plupart d'entre nous, titre personnel, avons pris nos grandes orientations entre 20 et 30 ans. Car un institut religieux, les fraternités monastiques de Jérusalem, pour parler d'eux aujourd'hui, un institut religieux n'a pas plus de destin figé qu'un homme seul. Nous n'employons pas le mot de destin ou de fatalité en christianisme. L'appel, la vocation, n'est pas l'explication d'une fatalité, d'une voie creusée sans possibilité d'en sortir. Quand un institut reçoit son appel, il y répond comme l'homme individuel que je suis, que vous êtes, avec une liberté créatrice. Je vous invite à retravailler la question théologique de la vocation et de l'appel. Voilà. On y répond comme l'homme individuel avec une liberté créatrice. La lettre de l'Esprit Saint, s'inscrit dans nos constitutions, qu'on a parfois retravaillées au fur et à mesure des décennies. Mais l'esprit de l'Esprit-Saint s'écrit dans notre imagination et dans notre créativité, constamment. Vous devinez que c'est une façon dynamique de voir la fidélité à sa source. Le temps de la jeunesse, on ne rejette plus ses racines dans un mouvement adolescent de critique, même si on a discerné l'ivraie et tout ce qui nous dérange et nous empêtre. Mais on y est vraiment fidèle, fidèle à la naissance, donc à la fondation, aux intuitions premières. Mais cette fidélité n'est pas celle du vieillard qui regrette son enfance et qui regarde fixement les premières années comme pour les répéter, comme pour les reproduire à l'infini. Alors, c'est pas ça du tout la vraie fidélité à la vie, pas ça du tout. Avec Dieu, nous ne sommes pas invités à répéter un moment de notre histoire, même si ce moment a été particulièrement heureux. Nous ne sommes pas invités à répéter un moment de notre histoire tout au long de notre histoire, mais à faire du neuf avec de l'ancien, comme le scribe qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Il me semble qu'il est très important aujourd'hui, devant les défis que nos papes nous ont présentés depuis 20 ans, hein, plus 30 ans, très important d'être dans cette fidélité dynamique qui vise précisément à être dans la dynamique d'un amour, Esprit Saint, créateur, plein d'imagination. L'imagination de la charité dont nous avait parlé Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II. Bien sûr, faire du neuf avec de l'ancien suppose de connaître notre ADN. C'est comme cela que nous parlons aujourd'hui. Voilà. Qui ne change pas tout au long de notre vie. C'est-à-dire, tout petit bébé ou grand vieillard, vous avez le même ADN. Voilà. Alors que nous changeons en permanence pour tendre à la pleine stature dans le Christ, au niveau personnel comme au niveau communautaire. Alors, j'ai essayé, tant bien que mal, c'est mon deuxième point, de revoir cet ADN. Si les petits ne savent pas ce que c'est pas très important. C'est, comment dire, la fibre, ce qui fait que nous sommes nous, hein, notre identité profonde, alors qu'on change tout le temps. Notre ADN, votre ADN, le charisme fondamental, c'est difficile à discerner, beaucoup plus qu'on ne le pense. Je le dis parce que moi-même, comme je vous l'ai dit, je suis religieux, et combien de fois en chapitre, devant les difficultés de notre histoire, nous en avons tous connu, nous avons été à la recherche de ce charisme. Voilà. Moine dans la ville, tout à la fois au cœur des villes et au cœur de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai inventé ces formules. J'espère que non. Si vous les découvrez, mes chères sœurs, il serait temps de relire vos statuts et autres compagnies. Bien. Alors, les yeux fixés sur Jérusalem, le moine cherche Dieu dans le désert. Ça restera jusqu'à la fin des temps. Mais ici, le moine cherche Dieu dans le désert de la ville. Là, c'est déjà plus original. Là, point de paysages infinis, semé de pics grandioses ou de roches creusées. J'ai eu la chance d'aller à la Sécrème. Et peut-être que beaucoup d'entre vous, vous n'y avez jamais été. Voilà. La Sécrème, Tamanrasset, Grande Sud. Voilà. Enfin, vous avez vu les photos, c'est déjà pas mal, hein? Bien, très bien. Ici, les bars et les voies rapides remplacent les pistes et les ermitages. Et pourtant, parmi les foules qui se croisent indifférentes et anonymes, des solitudes glaciales. Solitudes qui sont aussi fraîches que la Sécrème. Il fait un froid terrible. Bon. L'ermitage du Père Charles, du bienheureux Charles de Foucault, qui sera bientôt saint. Un vrai désert où l'eau de l'amitié ne répond pas à la soif humaine. Alors, cette ville, le pape François qui en vient, archevêque de Buenos Aires, je me permets de le rappeler, le pape François nous en a longuement parlé dans un texte fondateur qui s'appelle « La joie de l'Évangile ». N'oublions pas les textes fondateurs parce qu'il y a de nouveaux textes. Alors, je me permets de soulever 5 points avec lui sur cette ville. C'est du paragraphe 71 à 75. Hein. « La nouvelle Jérusalem, dit-il, la cité sainte, est le but vers lequel l'humanité tout entière est en marche. Et ceux qui sont adeptes de la parole de Dieu, vous avez lu abondamment, évidemment, le livre de l'Apocalypse. Je tiens à souligner la pertinence du pape, j'attends pas de promotion, hein, permet de le dire, mais quand même vous pouvez lui dire si vous le rencontrez, parce qu'en effet, on part d'un jardin, c'est une image, bien sûr, le paradis terrestre, hein, un jardin. Ça résonne aujourd'hui dans nos mentalités écologiques. Hein, voilà. Alors que le but, c'est la cité sainte qui descend du ciel, abondamment décrite sous la forme d'images, voilà, dans le livre de l'Apocalypse. C'est surprenant, ça doit être surprenant. La Nouvelle Jérusalem, la cité sainte, est le but vers lequel l'humanité tout entière est en marche. Il est intéressant que la Révélation nous dise que la plénitude de l'humanité et de l'histoire se réalise dans une ville. Il ne dit pas, mais je rajoute bien sûr qu'il pourrait y avoir des arbres dans cette ville, parce que personne ne croit que je prends une position politique. Nous avons besoin de reconnaître la ville à partir d'un regard contemplatif. Ça, c'est passionnant. Regardons la ville, Strasbourg par exemple, nos grandes cités, nos grandes métropoles, avec un regard de foi qui découvre ce Dieu qui habite dans les maisons, dans les rues, dans les places. Première, regardons la ville avec un regard de foi, à la lumière de la Jérusalem céleste. Deuxièmement, n'idéalisons pas cette ville. Hein. Dans la vie quotidienne, les citadins luttent très souvent pour survivre. Voilà. C'est vrai des favelas, sûrement, hein, de ces pays d'Amérique du Sud, mais peut-être aussi de nos propres agglomérations. Et dans cette lutte se cache un sens profond de l'existence qui implique habituellement aussi un profond sens religieux. Donc le pape François n'idéalise pas, la ville est un lieu de combat, et pour certains, de combat de survie. Troisième point, une nouvelle culture. Les nouvelles cultures continuent à naître dans ces énormes géographies humaines où le chrétien n'a plus l'habitude d'être promoteur ou générateur de sens. C'est un peu compliqué, hein, mais il veut dire que c'est plus nous qui donnons forme à la société. Voilà. On le voit avec une inculture chrétienne grandissante, y compris dans nos élites intellectuelles ou politiques, pour le dire autrement. Il y a d'autres sens qui sont donnés. Hein. Une culture inédite palpite et se projette dans la ville. Cela demande d'imaginer des espaces de prière et de communion avec des caractéristiques innovantes, plus attirantes et significatives pour les populations urbaines. Voilà, on a encore du pape François tout craché, et il a raison, il faut imaginer des espaces de prière et de communion avec des caractéristiques innovantes. Je ne sais pas s'il faut chanter en pop louange, hein, et autres. Hein, c'était pas moi qui suis vous, quoi. Hein, voilà, c'est vous qui êtes vous. Quatrième point. Dans la ville, il y a des pratiques de violence. Voilà. C'est pas un Américain du Sud qui est le pape François qui va l'oublier. Hein, donc n'idéalisons pas la ville. Hein. Il est indispensable d'arriver là où se forment les nouveaux récits et paradigmes, d'atteindre avec la parole de Jésus les éléments centraux, les plus profonds de l'âme de la ville. Il ne faut pas oublier que la ville est un milieu culturel, multiculturel. Des formes culturelles variées cohabitent de fait, mais exercent souvent des pratiques de ségrégation et de violence. Nous parlons des quartiers, nous parlons des cités. Jadis, on parlait des banlieues, on n'en parle plus parce qu'on s'aperçoit que ça se passe aussi dans nos centres-villes. Le communautarisme, etc., etc., doit être identifié. L'Église est appelée à se mettre au service d'un dialogue difficile. Point 5, toujours le pape François, la ville génère beaucoup d'abus, beaucoup de personnes abusées, hein, dans la ville. Nous ne pouvons ignorer que dans les villes, le trafic de drogue et de personnes y est très sensible. L'abus et l'exploitation de mineurs, l'abandon des personnes âgées et malades, diverses formes de corruption et de criminalité augmentent facilement. Le sens unitaire et complet de la vie humaine que l'Évangile propose est le meilleur remède aux maux de la ville. Voilà. Ce sens extraordinaire unitaire et avec une puissance d'unité, hein, et unitif, si je veux dire, et complet de la vie humaine que l'Évangile propose sera le remède à ces maux, à toutes ces formes d'abus. Bien sûr, à cela, nous pourrions rajouter, quelques années après le choix de l'Évangile, nos propres perceptions. Je vois par exemple que le même pape François nous appelle à être une église en sortie, au moment où moins de personnes qu'il y a 25 ans poussent les portes de nos églises. Ils les ignorent, ils ne savent plus ce que l'on peut y trouver. Je crois que je ne vous ai jamais raconté mon premier contact avec les fraternités monastiques de Jérusalem. Je crois pas. J'étais jeune curé en Charente. La Charente, c'est Angoulême. Comme vous ne connaissez pas Angoulême, mais c'est Cognac, ça va. Et j'étais jeune curé. Un jour, on sonne à la porte du presbytère. J'étais en rencontre, seul. Je grogne, mais je vais quand même ouvrir la porte. Tombe devant un jeune homme, une trentaine d'années, qui, sans même me dire bonjour, me dit « Est-ce que c'est vous, les chanoines réguliers de Saint-Augustin ?» Alors, des personnes qui sonnent à la porte, il y en avait beaucoup, pour des baptêmes, des enterrements, je ne sais quoi, des trucs. Mais rares sont ceux quand même qui m'ont abordé de cette façon. Ah, je dis « Ah oui, ici, c'est ça, c'est nous, ici. Ah bon, alors j'aimerais vous voir. » Je dis « Je suis en rendez-vous, prends rendez-vous. » Et là, il m'explique sa vie. Il me dit « Voilà, j'accompagnais mon fils à l'école, et puis il y a une dame, c'est efficace les sorties ou les entrées d'école, qui m'a parlé de vous et de la paroisse. Alors je voudrais vous connaître parce qu'Augustin me parle. » Je dis « Pourquoi Saint-Augustin vous parle-t-il » Eh bien parce qu'un jour, en entrant dans une librairie, au hasard, je suis tombé sur les confessions de Saint-Augustin. Je les ai lues et je m'y suis retrouvé. Il y avait sa concubine, etc., etc., donc une vie morale extrêmement parallèle à celle de Saint-Augustin. Alors, j'en viens aux fraternités. Je dis, mais qu'est-ce qui vous a poussé à lire ce genre d'ouvrage? Ah, il me dit, ben voilà, c'est ça. Un jour, je marchais dans les rues de Paris. Et j'étais dans le grand commerce international, c'était un homme très brillant. Je me posais la question et subitement, marchant sur le trottoir, je vois de l'autre côté de la rue un moine. À ce moment-là, je ressens un choc intérieur profond. Je pose mon attaché case, moi qui marche à toute vitesse, je m'arrête, je me fige et je me dis à l'intérieur de moi-même, ça, c'est un homme. Allez. C'est tout. Renseignement pris, parce qu'évidemment, après, il a cherché à savoir qui était ce moine. C'était, alors je ne sais pas son nom, un frère de la fraternité, des fraternités monastiques de Jérusalem. Peut-être que tel ou tel va se reconnaître. Enfin, c'était il y a, je vous parle, du début des années 90. Pour un certain nombre, hein, Joseph, je crois que c'est peu probable. Hein, 91, 92, voilà. Il y a 30 ans, bientôt. Hein. Et à partir de là, ça a été un choc, parce qu'il s'est aperçu qu'il n'était pas un homme, en fait. Alors qu'il il réussissait parfaitement dans la vie professionnelle, il vivait à 100 à l'heure. Pose un attaché. Ça, c'est un homme. Et moi, je ne le suis pas. Je ne suis plus libre. Voilà, il a décidé de rompre, et lui, qui était parfaitement agnostique ou incroyant, de faire ce chemin pour se dire, mais comment cet homme-là a-t-il pu être un homme? Avec ce sentiment de liberté. Ce que le pape François nous a dit tout à l'heure, cette stature, cette maturité. Voilà, maintenant vous savez tout sur mon premier contact. Voilà, l'Église en sortie. Alors, on ne pousse plus les portes de nos villes. Des jeunes qui ne sont plus dans la même attente qu'il y a 25 ans. Je suis frappé de cela pour avoir beaucoup occupé. Voilà. Il y a peu, je parlais avec le responsable du service national de l'évangélisation des jeunes et des vocations, et qui nous disait que, par exemple, la communauté de l'Emmanuel avait fermé 4 de ses années, années pour Dieu, années d'évangélisation, vous savez, parce qu'en fait, c'est plus ça qui intéresse les jeunes veulent se donner aux autres. Il y a une générosité qui sera certainement la voie par laquelle le Seigneur va les toucher ces prochaines années, etc., etc. On a beaucoup parlé. Voilà. Je termine mon homélie en vous rappelant que tout ceci est un mystère de joie reçue, voilà, mais que vous êtes attaché par votre fondation le 14 septembre 1995, ce sera demain. On est le 13 aujourd'hui, mais bon, voilà, comme ça. Vous êtes attaché au mystère de la croix glorieuse. Ce que Mgr Brand vous a rappelé le 14 septembre 1995, et je le cite et je conclue par là, vous êtes lié à la Pâque du Seigneur. Et nous parlerons de ce que cela apportera comme source ici, sur les bords de l'île où vous résiderez désormais.